Le masque et la plume. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume diffusé à une heure inhabituelle en raison, vous le savez, de la soirée électorale et consacrée à l'actualité littéraire avec Olivia de Lamberterie, Duel, Nelly Caprielian, Des Inrecuptibles, Jean-Claude Raspienjas, Delacroix et Arnaud Vivian de Regard. Et de Transfuge, on parle aujourd'hui des romans de Joël Dicker et de Paul Constant, d'un traité de Jean-Philippe Toussaint, de la biographie d'Edmond Charleroux par Dominique de Saint-Pern et de la correspondance de François Truffaut avec les écrivains. Dans le courrier de la semaine, Lorenzo nous écrit « Je suis italien ». Et je vous écoute avec le plus grand plaisir depuis l'Allemagne, Stuttgart, depuis un an, lors de la critique de Porca Miseria de Tonino Benacquista. Patricia Martin a dit qu'en italien, on ne peut pas dire merde, mais qu'on peut dire des choses affreuses sur Dieu ou la Vierge en italien. Je ne sais pas qui fréquente votre chroniqueuse, nous dit Lorenzo, mais c'est absolument faux et j'ai été choqué d'entendre cela. À propos de Verdun de Yann Moix, François répond à Arnaud, qui, contrairement à Frédéric et à votre serviteur, Arnaud n'a pas fait son service militaire. « Pas si con », disait Arnaud. « Au service militaire, écrit François, on s'enrichit pourtant de la découverte de gens venus de tous les horizons, qu'on soit sursitaire ou jeune appelé, une expérience dont Arnaud s'est privé, et ça c'est vraiment trop con. » Toujours à propos de Verdun, de Yann Moix, Jean-Marie Panot s'adresse toujours à Patricia. « Vous nous refaites le coup de l'hôpital psychiatrique comme machine à broyer. Savez-vous qu'on en a fini depuis pas mal de temps avec l'enfermement arbitraire, que les soignés sont des gens malades, souvent douloureux, qui heureusement sont pris en charge, que les soignants sont très compétents, très dévoués, et que la psychiatrie est la 15e roue d'un hôpital public qui va mal. C'est faire peu de cas de tout cela que de parler de machine à broyer. Sinon, Éric Bord, lui, n'a pas du tout aimé Non, N.O.M. de Constance Debray. Il me semble que le texte de Madame Debray n'aurait pas trouvé éditeur si tel n'avait pas été son nom, tant le livre est vide, pathétique, pauvre de style, en un mot lamentable. Parmi ceux qui écrivent des livres, je préfère les porteurs de flambeaux aux chantres du nihilisme. Et au contraire, Frédéric Moisan est encore sous le choc. À 6 heures, ouvrir sur un non, douter de sa propre respiration, encaisser, vaciller, puis à 8h40, refermer le livre. Merci Constance. Enfin, Pascal Richard, qui est attaché de presse chez Gallimard, nous écrit que, contrairement à ce que vous avez dit, les critiques du Masque et la Plume, le livre d'Orhan Pamuk, Les Nuits de la Peste, ne comporte aucun dessin dans l'édition turque. Rien donc n'a été supprimé dans l'édition française. Je ne sais pas qui avait dit ça. C'était toi, Jean-Claude, qui avait dit ça ?
Je fais partie de ceux qui l'ont dit. Je n'étais pas tout seul, mais enfin, je peux te prendre sur le dos. Mais j'avais lu.
C'est faux.
J'avais lu et j'avais même lu des critiques de ses dessins et à quel point ça a apporté quelque chose.
Ils sont sur Internet, en fait. Je soutiens.
Là, Pascal Richard nous parle du livre, pas des dessins que peut faire M. Pamuk.
Non, mais dans l'édition turque, mais je ne vais pas m'engager plus que ça.
Ça doit être dans son journal, alors.
Je pense que
vous êtes, chez Gallimard.
Vous êtes mal informé, que vous ne savez pas exactement les choses. En tout cas, la vérité vient de Pascal Richard.
Alors Jérôme, pour commencer.
Alors Jérôme, je tiens à dire, c'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Oui.
Ils ont encore confondu avec leur truc de coloriage, là.
C'est... Voilà. Donc, Les Nuits de la Peste, sans illustration d'Orhan Pamuk, et en France, c'est chez Gallimard. Et on commence avec l'affaire Alaska Sanders, un roman idéal pour lire avant le déjeuner, et le nouveau roman du Suisse Joël Dicker, qu'il a auto-édité, puisqu'il a maintenant sa propre maison d'édition. C'est plus confortable pour les droits. Rosie and Wolf est tiré à 600 000 exemplaires. Un roman de presque 600 pages, qui est la suite chronologique de « La vérité sur Harry Kéber », le livre des Baltimore, déjà paru, étant le dernier volume de la trilogie. Vous me suivez ? Oui. Je vous rappelle qu'en avril 1999, le corps d'Alaska Sanders, une reine de beauté de 22 ans employée dans une station-service, avait été retrouvé au bord d'un lac d'une bourgade américaine. L'enquête bouclée, classée. Le meurtrier et amant d'Alaska s'était suicidé et son complice était sous les verrous. Je vous rappelle un peu les choses parce que je sens que vous êtes un peu perdu. 11 ans plus tard, l'affaire rebondit quand le sergent de police qui avait élucidé le crime reçoit une lettre anonyme où il est écrit que le coupable et son complice sont innocents. L'écrivain Marcus Goldman, auteur mondialement célèbre de la vérité sur l'affaire Harry Kébert, va aider le sergent, son ami, à élucider le mystère. C'est donc le sixième...
Tout le monde dort, là, tu sais. Il est quand même... Il est midi, et tu nous assommes avec un...
Non, il est... Pardon, mais il est midi passé.
C'est pas possible.
Sixième thriller de Dicker et numéro un des ventes, que vous avez lu les uns les autres, même si vous n'avez pas forcément reçu en service de presse. Nelly?
Ah oui, moi je l'ai lu, je l'ai pas reçu en effet, j'ai fait ma demande, enfin donc j'ai dû l'acheter. Et je ne me plaindrai pas d'avoir dû acheter un livre et enrichir, Joël Dicker, je me disais c'est peut-être tous les critiques qui doivent acheter son livre, donc du coup c'est pour ça qu'il en vend des caisses, parce que je pense que je vais devenir riche grâce à lui. C'est-à-dire qu'il faut, enfin je vais découper son livre, en faire une espèce de patronage, vous savez en culture on a un patron pour faire une robe, et je vais voir comment en suivant ses pas écrire un best-seller. Si on veut écrire un best-seller, il faut suivre absolument ce qu'il fait. C'est du Dan Brown dans la structure. Enfin, tu me connais, moi je suis quand même une grande intellectuelle, je vais parler de la structure d'abord, la structure littéraire du livre, qui est exactement du Dan Brown, mais en speed.
En quoi?
Arnaud dirait, c'est Dan Brown et qui. Non, mais c'est speed parce que moi, je ne sais pas si vous aviez pas. Mais
est-ce que
tu avais
lu les? Est-ce que tu avais lu les précédents?
Non, alors j'ai lu le premier qui a eu du succès, voilà. Non, enfin lu. J'ai essayé. Et là, c'est-à-dire que le secret pour écrire les best-sellers, c'est d'aller à toute vitesse, de créer un rebondissement à chaque fois. Là, on est, je disais que j'avais le tournis, parce qu'il nous trimballe dans toutes les temporalités. On est en 99, on est en 2008, on revient au passé. Non, mais c'est sans arrêt. Ça va très... Enfin, le début, excuse-moi, c'est quand même très, très rapide. J'ai eu l'impression, à part ça, la langue, maintenant que j'ai fait la structure, la langue, je pense que c'était quand même... je crois que c'était traduit de l'américain par un traducteur québécois. J'adore le Québec et les Québécois. Commencez pas à me regarder comme ça. Je trouvais qu'il y avait des formulations, mais totalement, absurdes, un peu grotesques. À part ça, c'est une espèce de, c'est le chaudron magique d'Harry Potter, quoi. C'est-à-dire qu'il a mis tous les gimmicks des séries télé et des polars écrits par les autres. Alors, ça commence, une femme, j'ai l'impression que c'était True Detective. On retrouve le cadavre de cette fille, elle est à moitié dévorée par un ours. Est-ce que c'est l'ours qui l'a bouffé? Est-ce que tu l'as tué ou pas? Non, c'est autre chose. Non, elle était morte avant. Par qui? Comment? Etc. Il y a le vieux flic, quand même, bougon. Il est bougon, mais au grand cœur.
Qui est emprunté au cinéma américain.
Il y a tous les clichés. Oui. Voilà, tous les clichés. Il a agité, il a fait cette structure de puzzle qui part un peu dans tous les sens et qui tient en haleine. Alors, si on a envie, si on lit un livre pour être tenu en haleine, c'est ça pourquoi on lit un livre finalement. Si c'est pour être tenu en haleine, faut le lire. Si on en a un peu rien à faire et qu'on a envie d'autre chose, non, c'est pas le livre qu'il faut lire. Maintenant, si vous voulez vous enrichir et écrire un best-seller, parce qu'apparemment, j'ai l'impression que les lecteurs parfois oublient et ils lisent un peu le même genre de best-seller, voilà.
Jean-Claude.
Alors moi, je m'étais illustré à cette tribune pour avoir défendu.
Oui.
Mais tu t'illustres toujours à cette tribune.
Non, mais juste là.
Je m'en souviens très bien.
Hein, je m'étais illustré
défendu.
En défendant les livres précédents de Joël Dicker. Je dois reconnaître aujourd'hui que j'avais connu des moments de grande solitude, mais j'avais...
Mais tu avais lu les éditions illustrées ou pas illustrées?
Non, mais écoute, je défendais les livres de Joël Dicker et j'étais un peu seul. Et quand je repartais, mes camarades ne me saluaient même pas. Il faut que vous le sachiez.
On est bougon, mais on a bon cœur.
Non, surtout que je me souviens que le dernier, Frédéric Becbédé, l'avait également défendu. Tu l'avais pas défendu, toi, Arnaud ?
Non, il me l'avait pas envoyé, je l'avais pas lu, j'avais dit non, c'est bon.
Alors,
et je m'apprêtais à garder ce cap, à me dire je vais le lire et puis je le défendrai et tout ça. Alors, chers amis, si vous avez un peu de cœur, ce que vous êtes en train de vous vanter, est-ce que vous m'acceptez parmi vous? Parce que je sens que j'ai envie de me réchauffer avec vous, parce que non, là, c'est absolument abominable ce livre. Mais vraiment, là, alors,
enfin, ça, non, mais j'ai ouvert connu, les yeux.
Oui, oui, mais alors c'est ça. Non, mais j'ai connu un grand vent de solitude chez moi en me disant et si je m'étais trompé précédemment, s'ils avaient eu raison.
Non, non, mais c'est affreux ce que tu as vécu
mais
là, en fait.
Mais oui, ouais. Mais oui, mais oui, parce que c'est un examen.
Surtout pour un critique de la croix, c'est affreux.
Oui, oui, mais c'est ça. Non, mais c'est, non, mais c'est exactement ce qu'on appelle un examen de conscience, et ça a été douloureux parce que je pouvais m'en ouvrir à personne. Non, c'est terrible. Au
confessionnal, tu
ne parle pas de ce que tu connais pas.
Bien répondu.
Bien envoyé.
Bien répondu.
Franchement, là, franchement. Est-ce que je me mêle de son bulletin de vote, là?
Oui, oui. Est-ce que tu te mêles de son isoloir?
C'est ça. Exactement. Non, je sais même pas par quel bout le prendre pour, il y a rien à sauver, mais rien. Je veux dire, rien ne tient. Ce que tu disais, ces systèmes de flashback, tout ça, on n'y comprend rien. Mais surtout, c'est même pas le suspense et tout ça. Moi, c'est surtout ce qui m'a rebuté, et c'est là l'objet de mon examen de conscience, c'est la langue, en effet, le style, quoi.
Or, ça, c'était dès le départ.
Mais non, dans mon souvenir, c'était un peu mieux écrit. Ouais. Hein, on est d'accord.
Ouais, absolument.
Là, alors, ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'on a affaire à un auteur qui n'a plus d'éditeur. Et il souffre de ça, Joël Dicker.
Son éditeur étant Bernard de Fallois, des éditions de Fallois, qui est mort.
Bien sûr.
Et à qui il rendait hommage dans son dernier livre.
Voilà. Et donc, du coup, il décide de s'auto-éditer. Et évidemment, il souffre de ça parce qu'il n'a pas de regard extérieur. Il n'a que son propre regard. Et là, c'est absolument terrible. Et après, ça pose une autre question. C'est de me dire, mais alors tout est indigent, le style, les dialogues, les situations sont invraisemblables, ça tient absolument pas. Les dialogues sont tartes. Enfin, c'est vraiment un cas d'école, hein. Mais la question après que je me pose, c'est que il est en tête des best-sellers, il paraît qu'il s'en vend 25 000 par semaine.
C'est foudroyant, vous allez recevoir d'ailleurs.
Non, mais la question que ça pose, c'est
25 000 lettres d'insultes par semaine, hein.
Mais la question que ça pose, c'est pourquoi les lecteurs se précipitent vers ça? Mais c'est une véritable énigme, alors qu'il y a tellement de chefs-d'œuvre qui sont dans les bibliothèques, qui
c'est
prennent la poussière,
vieux,
qui leur tendent les bras,
Gutenberg, hein.
Qui leur tendent les bras et qui leur ferait tellement plus de bien que de lire ça. Voilà.
On va essayer de trouver d'autres livres ce soir à conseiller. Olivia.
Je suis d'accord avec vous, mais pas tout à fait, parce que Nelly, tu dis qu'il y a une intrigue qui tient le coup. Moi,
Non.
Ah bon, parce que là, je trouve que la différence avec les livres précédents, qui étaient déjà fort mal écrits, c'est qu'il y avait quand même un petit suspense. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y avait une intrigue assez bien ficelée.
Il y en a un petit dans celui-là, faut pas exagérer quand même.
Là oui, ah non, petit, alors si, écoute, si. Là, honnêtement, si. Moi je trouve que c'est pas speed du tout, c'est écrit. Moi je me suis ennuyée pendant les 150 premières pages, c'est écrit à la vitesse d'un escargot neurasthénique, je peux pas vous dire. C'est convenu, c'est-à-dire que moi qui suis pas une grande experte en polar, honnêtement, on trouve tout, mais avant ce pauvre narrateur qui est un débile profond. En tous les cas, on voit à peu près qui est le meurtrier, pourquoi il va pas l'être. Enfin, je trouve que les rebondissements, tout est très très convenu. Les personnages ont tellement peu de chair que de toute façon, on s'en fout, ils pourraient tous mourir. Que...
Oui, c'est vrai, tu as raison, ils ne sont pas du tout décrits.
Ils sont absolument pas décrits, ils sont pas incarnés, sauf un peu le narrateur. Alors, il y a un jeu de miroir avec la vie de Joël Dicker. Et alors là, il se décrit comme tellement embarrassé par sa gloire et son succès et son triomphe.
Ça, c'est pénible. Hein.
Ça, c'est vraiment très pénible.
C'est hilarant en même temps.
Mais... C'est hilarant, oui, j'ai un début de fou rire, mais en même temps, c'est quand même... Bon. Et puis, alors, après, il y a le style. Alors, c'est un garçon qui ne connaît absolument pas la concordance de temps, qui est quand même le béaba. Moi, j'ai des enfants qui sont à l'école primaire. On vous apprend imparfait, passé simple, assez vite. Là, il choisit. Il y a des chapitres à l'imparfait, uniquement, et avec une seule personne, c'est la troisième personne du singulier. Elle se levait, elle mangeait, elle repartait, beaucoup, beaucoup de ce qu'il mange. Alors, on nous fait grâce d'aucun sandwich, aucune tranche de fromage, vous avez tout, 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 tout. Je pense que si on enlevait les phrases qui ne servent à rien, on arriverait à 50 pages. Vraiment, c'est... indigent, moi ça m'a vraiment mis en colère en fait. J'étais vraiment malheureuse.
Tu en parles comme d'une pizza buitonnie, c'est marrant. Hein,
Mais ça ne m'a pas rendu malade.
Arnaud.
Écoutez, je n'avais pas eu la précédente pizza Buitoni. On avait refusé de me la servir. Et là, c'est pareil. Donc, vous appelez. Et donc, je dis, est-ce que je peux avoir le... Je travaille au Masque et la Plume, c'est une émission littéraire sur France Inter. Est-ce que je peux avoir le Joël Dicker? Parce que nous allons en parler dans l'émission. Et là, une assistante, tout à fait charmante d'ailleurs, me dit, on n'en a plus, c'est parti comme des petits pains. Et je veux dire, ils m'ont même pas proposé de m'envoyer le PDF. Ce que font quand même... normalement, les autres, quand ils n'ont pas du tout envie que je le lise, il y a quand même des éditeurs qui n'ont pas trop envie que je lise leur livre, eh bien, ils m'envoient le PDF pour m'emmerder, parce que je préfère un livre. Mais là, rien. Et donc, mais ça m'empêche pas d'avoir une théorie, alors, mais depuis le départ, sur Joël Dicker. Le premier livre, je m'avais offusqué.
Mais attends, tu ne l'as pas acheté, donc, celui-là?
Ah non, non, non.
Donc, tu l'as pas lu?
Non, non.
Donc tu vas en parler.
Mais oui, bien sûr. Et bien sûr que je vais en parler. Mais de toute façon, et donc il reprend la recette
mais non, mais
du premier.
Alors,
le premier, je l'ai lu. Il se trouve que non seulement je l'ai lu, mais j'ai écrit un long article au sujet de cette affaire, parce que c'est une affaire précisément. Parce que vous comprenez, nous on le sait et on le dit à personne. Mais la chose qui a été déterminante dans le succès de Joël Dicker, c'est Bernard de Fallois. C'est ce qui lui a permis d'avoir le Grand Prix de l'Académie française, alors qu'il écrit même pas en français, vous l'avez dit, il écrit dans un français globiche, comme on parle d'anglais globiche. C'est exactement ça, le style de Joël Dicker. Il a eu le Grand Prix de l'Académie française, ça, de la langue française, mais de la langue française, le prix de l'Académie de la langue, parce que Bernard de Fallois était effectivement un très grand homme, un immense proustien que tout le monde vénérait et à juste
titre. Épagnolien.
Voilà, épagnolien, etc. Un érudit, comme il n'en existe plus. Et donc, c'est comme ça qu'il a été bien traité par la critique au départ, alors que c'était un plagiat du dernier grand roman du XXe siècle, qui est La Tâche de Philippe Ross. Il reprenait tous les éléments, mais il en faisait un truc marketing dégoûtant. Et quand il a reçu le prix, il a dit « Je le dédie au plus grand écrivain vivant, celui qui m'a influencé, Philippe Ross, qui était à l'époque encore en vie. » Vous imaginez comment
bon, ça ressemble à... Vu ton Ross, état, heureusement que t'as pas lu le nouveau.
Dingue. C'est dingue quand même, comment on peut en arriver là?
Le nouveau s'appelle l'affaire Alaska Sanders, c'est signé, vous l'avez compris je pense, Joël Dicker, Edmond de l'Envolé, eux chez Stock, c'est la suite et la fin de la biographie consacrée par Dominique de Saint-Perne à Edmond Charleroux 1920-2016. Dans le premier volume, qui était formidable, Edmond portait la blouse blanche d'infirmière de la Légion étrangère et l'uniforme kaki de la 5e DB. Dans le second, elle est la patronne de Vogue et porte un tailleur Chanel. Elle obtient le prix Goncourt pour son premier roman « Oubliez Palerme ». Jacques Chazot, dans les années donc 50-60, la surnomme « Marie Chantal ». Louise de Villemorin la surnomme « L'Edmondaine ». Elle ne compte plus ses amants. Alors là, c'est impressionnant, puisque c'est raconté. André Derain, le peintre, hein, Maurice Druon, pour qui, en plus, elle écrivait des chapitres entiers des Rois Maudits, qui avait, paraît-il, une très belle Rolls bicolore. François-Régis Bastide, notre ami François-Régis. Le général Oufkir, vous voyez que c'est très large, hein, comme panel. Le colonel Kadhafi. Ouais. Et j'en oublie. Et elle a quand même fini par épouser Gaston Defer. Le maire de Marseille, bientôt ministre de l'Intérieur de François Mitterrand, car elle était à la fois très chic et à gauche, dans la bouche du général de Gaulle, c'était dans les jardins de l'Élysée, ça donnait « Madame, vous écrivez bien, mais vous votez mal ». Tiens, c'est une phrase pour aujourd'hui. Bref, un sacré personnage, et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le premier volume, le deuxième, et second plutôt, est tout à fait passionnant, Olivia ?
Oh ben j'adore. J'adore Edmond et j'adore la biographie parce que je trouve que le livre est aussi sémillant que le personnage. Et Dominique de Saint-Perne a la bonne distance parce que c'est une femme qui est à la fois irrésistible d'énergie, de talent, de drôlerie. Et en même temps, comme disait Tombesco...
Et de sévérité aussi. Hein.
Oui, c'est une arrangeuse avec un grand tas. Et effectivement, elle a beaucoup arrangé son existence. Elle a fait beaucoup de petits arrangements avec l'existence. Mais je trouve qu'elle reste un personnage inouï. Alors, on peut évidemment lire ce tome sans avoir lu le précédent, mais je pense que ça serait très dommage parce que
Toute l'énergie italienne.
Et l'appétit de vie d'Edmond et cette manière qu'elle a eue d'avoir énormément d'amants. Il y a une phrase que j'adore de François Giroux qui disait « Edmond couchait avec tout le monde, c'était presque une manie ». Merci Françoise.
Oui. Elle était vraiment gentille, François Giroud.
Cette espèce de... Oh, Edmond n'était pas très gentil non plus parfois. Cet appétit, oui, de vivre et d'amour qu'elle a eu ne peut se comprendre qu'avec la guerre qu'elle a vécue, la mort qu'elle a côtoyée très jeune et la mort de son premier amour quand elle n'avait même pas 20 ans. Donc vraiment, il faut lire, je trouve, les deux. Ce que j'aime aussi chez cette femme, et ce que Dominique de Saint-Père montre bien, c'est qu'en fait, elle n'a cessé d'abord de s'inventer, mais elle ne s'est jamais reniée. C'est-à-dire que, comme tu dis, elle est à la fois la créature qui ne rate jamais un bal chez les Rothschild, et en même temps...
Qui était la meilleure amie d'Aragon, qu'elle allait voir au Moulin.
Fête de l'humanité, parce que c'est comme si chaque période de sa vie, toutes les couches successives se sont additionnées, mais sans jamais s'annuler. Et je trouve que c'est ça qui est très intéressant dans ce personnage. Alors, en tant que journaliste à elle, évidemment, toute la période de elle, elle arrive de Marseille, elle n'a jamais été journaliste, elle rencontre un copain dans la rue qui lui dit « Hélène Lazareff a fait un journal, elle cherche des gens », et elle y va. Et cette espèce de d'effervescence de la naissance de elle, moi, m'a ravie. Et puis, il y a deux trucs géniaux dans le livre, qui sont les deux grands mensonges d'Edmond.
Parmi beaucoup d'autres.
Parmi beaucoup, mais les deux plus célèbres. Elle a été renvoyée de Vogue en 1966 parce qu'elle a toujours affirmé qu'elle avait voulu mettre un mannequin noir en couverture.
Et que les Américains... 66.
Et que les Américains n'avaient pas voulu, puisque la direction de Vogue était américaine. La réalité est tout autre. Je vous laisse la découvrir.
Oui.
Et le meilleur mensonge, je vous laisse le découvrir aussi, mais il concerne Chanel. Elle a écrit une biographie de Chanel qui s'appelle « L'irrégulière », qui est géniale, mais dans laquelle elle a inventé la jeunesse de Chanel, l'orphelinat dans lequel Chanel va puiser absolument tous ses fondamentaux et ses imageries, n'a jamais existé. C'est génial.
Arnaud.
Ben oui, c'est génial. Si vous vous intéressez d'abord à la presse, parce que c'est quand même une grande femme de presse, évidemment. Si vous vous intéressez à la politique, si vous vous intéressez à la littérature et au prix Goncourt,
il y a des anecdotes. Et à Marseille.
Et à Marseille, évidemment.
Il y a des anecdotes de Marseille,
formidables, mais tellement drôles. Par exemple, Edmond Charles-Leroux avait demandé à Jean Genet,
génial,
de faire le média training de Gaston Defferre, parce qu'elle s'était aperçue qu'il passait mal à la télé. Mais alors, demandez à Jean Genet, là où il faut, si vous vous représentez un petit peu, si vous avez lu, si vous voyez à peu près Jean Genet, lui dites là, c'est une idée, mais complètement de dingue. Et j'adore, alors il y a l'histoire que je connaissais de Mitterrand qui va voir Michel Tournier en hélicoptère.
Dans son presbytère. Pour faire entrer Edmond à l'Académie Goncourt.
Ouais, exactement. En échange de quoi, lui dit Mitterrand, la France vous aidera pour le prix Nobel qu'il n'a évidemment jamais eu. Et en plus, je ne vois pas comment la France peut aider pour le prix Nobel. Enfin, il faut vraiment être Mitterrand pour s'imaginer. Tiens, voilà. Enfin bon, il y a des histoires comme ça. Et la vengeance après la mort.
Contre Michel Peset, qui était...
Ouais. Comment elle se venge de l'opposant,
le rival de Gaston Defferre à Marseille.
Voilà. Mais une vengeance froide, sicilienne, quoi. Et là, franchement, non, magnifique. Et là, vous voyez, on parle de livres passionnants, etc. Mais franchement, là, on tourne les pages, on est juste ravis.
Et elle est morte avec, dans une main, un crucifix, et dans l'autre, les communistes d'Aragon, et qu'elle réclamait jusqu'au bout. Nelly.
C'est beau, d'ailleurs, là, quand elle raconte. Je crois qu'elle le racontait déjà dans le premier volet, que j'avais beaucoup aimé, quand elle va rencontrer Edmond à la fin, dans sa...
Ah, c'est très beau.
Dans une maison...
Elle la regarde.
Un EHPAD marseillais.
Un EHPAD marseillais. Et Edmond se croit toujours Edmond, quoi. Il dit, mais vous n'avez pas demandé... il faut 3 semaines pour un rendez-vous, ou 3 mois, rappeler mon assistante. Et à la fin, quand l'autre panique, en fait, parce qu'elle voit que voilà, c'est angoissant, et elle part, et Edmond la rappelle, elle veut pas, et Edmond lui dit... elle lui dit qu'elle a un train à prendre, et Edmond lui dit « quand on veut, on peut ». On peut toujours.
Génial.
Et j'aime beaucoup ce côté femme, femme de tête et femme forte, vraiment qui transparaît à travers ça.
Femme forte, alors, était encore une fois qui avait été dans l'armée de Delattre, qui avait été
bah oui,
qui a été très
résisté et qui était dans
très courageuse.
Ouais. Et moi, je l'avais interviewé en fait à la fin de sa vie, pendant 2-3 heures, et sur toute sa vie. Et en fait, elle, à un moment donné, elle a fondu en larmes, et c'était vraiment sur la guerre. Et c'est vrai que tu as raison, Olivia, de rappeler qu'il faut lire le premier, vraiment, parce qu'à la fin de sa vie, elle était hantée par la guerre.
Bien sûr, ah, moi, j'ai hantée par la guerre. Comme toi, à la fin de sa vie, je lui avais
c'était
dit
pareil.
Pourquoi vous n'avez jamais écrit de biographie.
Ouais. Elle avait a toujours refusé d'écrire ses mémoires.
Elle m'avait dit toujours. Parce que les biographies, c'est pour les vieux.
Ce qui était génial. Alors, moi, il m'a manqué quand même quelque chose. Enfin, j'ai appris plein de choses, j'ai aimé ce livre, mais j'aurais presque eu envie. Et c'est compliqué, je pense, pour la biographe d'Edmond Charlot, qui en plus, en effet, truquait tout. Et d'ailleurs, ce que je trouve beau, qu'elle le dise beaucoup, d'ailleurs, Dominique de Saint-Perne, elle est face quand même à quelqu'un qui se réinvente, qui arrange sa vérité sans arrêt. Moi, j'aurais aimé, par exemple, quand Edmond Charlot, en entretien, me dit on se donnait rendez-vous avec Luchino Visconti devant chez Chanel rue Cambon quand on allait dîner. Chanel était tellement chiante qu'on convenait ensemble d'un code pour se casser au même moment. Et on se disait 22h Luchino, 22h Edmond, et ils se faisaient leur petit code et ils se tiraient, ils allaient dans des fêtes et d'autres trucs beaucoup plus rigolos que de dîner avec Chanel. Bon, ça voilà, je trouve qu'il y a des anecdotes comme ça où on a presque envie, mais bon, ça c'est, je peux pas lui reprocher non plus, hein, qu'elle invente, c'est-à-dire qu'elle fasse de la fiction et qu'elle nous raconte ses dîners avec Chanel. Moi, il me manque.
Le premier volume était plus romancé parce qu'elle n'avait pas assisté à beaucoup de scènes. Ouais. Là, elle est plus proche d'une réalité qu'on est beaucoup à avoir connue et vue de près. Hein.
Oui, mais je
donc
pense
c'était difficile
qu'il y avait,
d'inventer.
Oui, mais je ne sais pas. Peut-être. Moi, il y a un peu plus d'incarnation. Voilà, j'aurais aimé quasiment plus de pages, en fait.
Jean-Claude.
Oui, alors tu as insisté sur le prologue. Et moi, quand j'ai lu ce prologue, je me suis même demandé si c'était posé une question morale. Parce qu'en fait, ce qu'on voit dans cette maison de retraite, c'est qu'elle a perdu la tête. Elle a réellement perdu
elle
la tête.
Elle a perdu la tête.
Elle a vraiment perdu la
très
tête.
Très tôt.
Et ce qui domine.
Elle imaginait chez elle qu'il y avait des inconnus qui arrivaient pour la vandaliser.
Alors, ce qui domine, évidemment, il y a la phrase que vous citez, mais il y a quand même ce regard noir, quoi, ce regard méchant qui est là. C'est-à-dire, à la fin de sa vie, il y a cette lueur comme ça de charbon qui est là et comme ça et qui. C'est un livre absolument magnifique. Je veux dire, on n'a pas assez insisté, je trouve, sur la qualité de l'écriture, le délice du style de ce livre. Vraiment, c'est un vrai bonheur. Alors là, c'est un bonheur de lecture. Donc, c'est le roman vrai d'une irrégulière balsacienne qui saisit tout ce que par opportunisme et ambition, tout ce que la vie va lui offrir. Elle est bien née, elle est au bon endroit. En effet, les circonstances de hasard.
Son père était ambassadeur au Vatican.
Il était un petit peu fricoté avec Pétain. Et il y a dans ce livre l'évocation d'une époque où il y avait des couples créateurs absolument extraordinaires. Les Lazareff. Le portrait des Lazareff est absolument extraordinaire, avec cette idée que Pierre Lazareff lui apprend l'école du regard, c'est-à-dire on parle de ce qu'on voit et pas de soi. Il y a Servan Schreiber et François Giroux, et il y a, et en effet, Edmond Charleroux et Maurice Druon, ils sont très très créatifs tous les deux. Livre maudit, c'est une usine, mais
ça. Et Gaston Defer qui était très très cultivé, lettré.
Et Gaston Defer aussi. Ce qui est très beau aussi, c'est quand elle se fait virer de Vogue, et tu as dit dans quelles circonstances réelles elle était partie de Vogue, la même année. Elle triomphe avec Oubliez pas l'herbe, elle a le prix Goncourt et elle raconte de faire. Et alors ce qui est beau dans ce livre, c'est comment Dominique de Saint-Perne montre comment ils sont encordés l'un à l'autre dans leurs ambitions respectives sans intervenir dans l'ambition de l'autre. Et ce qui est beau chez Dominique de Saint-Perne, c'est que
ça sera le mot de la fin. Hein,
oui,
au jeu de trois livres encore à évoquer, je sens que
au jeu de ses ambitions, ce qu'elle oppose qui est très beau, c'est la vie réelle de leurs minuscules habitudes partagées. Et ça, c'est très, très beau dans le livre. Voilà, bon.
Lisez Edmond de l'Envolée, lisez aussi le premier volume chez Stock de la biographie d'Edmond Charleroux par Dominique de Saint-Perne. Et maintenant, une autre lauréate du prix Goncourt est membre aujourd'hui de cette académie. C'était en 98 avec Confidence pour Confidence. Paul Constant, elle signe chez Gallimard La cécité des rivières. Alors, c'est pas simplement une maladie parasitaire, l'oncocercose, que vous connaissiez les uns et les autres, non? C'est un beau nom pour une maladie, hein, c'est des rivières. C'est aussi un roman, d'ailleurs le personnage s'appelle Éric Roman. C'est un grand médecin épidémiologiste, prix Nobel, plus célèbre dans le monde, écrit Paul Constant, que Brigitte Bardot et le Che Guevara réunis. Je vois mal le bon. Il revient dans le pays africain où, comme Paul Constant, il a grandi quelque part entre le Cameroun et la Centrafrique où son père dirigeait un hôpital dans les années 60. Il est suivi par deux journalistes, un photographe. et la jeune débutante Irène, que le grand prix Nobel très misogyne regarde au début de haut jusqu'au moment où, approchant du lieu de son enfance, il finit par fendre l'armure. Cette cécité des rivières vous a-t-elle plu, Arnaud ?
Non, je dirais pas que ça m'a vraiment emballé, non, pas spécialement. Bon, déjà, il y a un problème immédiatement, et tu l'as dit, c'est que le personnage principal, ce médecin qui a le prix Nobel, s'appelle donc Roman. Alors, quand même, je veux dire, il y a pas mal de possibilités de choisir ses noms de personnages, mais tomber pile poil sur celui-là, Roman, vous dit, il y a un problème, mais tout de suite, quoi, ça saute aux yeux. Et ce livre est bourré de problèmes comme ça, qui font que ça ne fonctionne pas. C'est pas que ça soit pas intéressant, intelligent sur l'Afrique, hein, voilà, c'est un regard, quand même, c'est un livre sur l'Afrique, et beaucoup sur les animaux.
Enfin, où Paul Constant a vraiment grandi, hein.
Oui, bien sûr, on voit ça, mais elle veut rendre hommage à son enfance, j'imagine, africaine, je connais pas sa vie, mais enfin, on sent, quoi, voilà, que ça renvoie à sa propre expérience, et le fait qu'elle ait grandi en Afrique. Mais rien de ça fonctionne. Le personnage de la journaliste, c'est complètement, a l'air de sortir d'un roman de Joël Dicker à peu près, avec un photographe baroudeur qui sort lui aussi d'un roman de Joël Dicker. Et donc tout ça est totalement, on avance de cliché en cliché dans la jungle des clichés, on pourrait dire, parce que voilà. Et au bout d'un moment, eh bien, vous savez ce qui se passe, c'est qu'on est perdu. On est perdu dans la jungle des clichés. Il y en a tellement, ça clignote partout et vous êtes aveuglé comme un lapin dans les phares et vous arrêtez de lire.
Tu parles d'une académicienne concours, c'est pas bien. Jean-Claude.
Alors, je vais pas être aussi méchant que mon camarade, mais en effet, quoi. Un homme.
Après, fais gaffe, parce qu'après, tu fais des examens de conscience.
Oui, fais
c'est compliqué. Vas-y, lâche-toi un peu.
Vous avez tort de me chercher là-dessus, parce que c'est mon honneur, ça. D'avoir de passer par des examens de conscience, c'est pas comme vous, hein, qui êtes très sûr de tout, là. Eh bien, moi, ça m'arrive de douter. Voilà. Voilà.
C'est beau.
C'est beau. Alors, accordez-moi ça. Voilà. Mais, là, je suis pas sûr que le doute va m'assaillir. En tout cas, pas ce midi, pas ce jour historique, pas ce midi, plus tard peut-être, au prochain livre de Paul Constant. Bon, donc on a un Nobel mystérieux, odieux, impénétrable, qui va se révéler évidemment un être fragile, blessé, plus complexe que ce qui monte de lui. On est donc sous la chaleur de l'Afrique, retour au pays de l'enfance, il va fendre l'armure. Sous le regard d'abord hostile, puis attendri de cette jeune journaliste, puisqu'on frôle même une histoire d'amour presque sexuelle. Et on se dit, soit, mais encore, quoi. Et tout le long du livre, c'est très classique, c'est plan-plan, il n'y a pas de relief. Ça avance qu'à un cas, il n'y a rien de surprenant, jamais. Ni dans l'histoire, ni dans le style, ni dans le continent, qui pourtant, voilà. Alors, il y a une allusion à Dien Bien Phu, mais on sort de Pierre Lemaître, donc évidemment, c'est difficile.
Et de Vuillard,
bien sûr, oui, c'est vrai. Donc, c'est un roman aussi sur les rapatriés, sur le drame des pieds noirs. Il y a un petit débat sur les avantages et les inconvénients de la colonisation, mais ça reste très gentillé, alors que franchement, à l'époque, elle n'est pas gentillée sur la question. C'est sur fond un peu d'islamisme, mais à peine. Un petit peu d'occupation chinoise rampante, mais pas trop non plus. C'est un roman sur les idées reçues, sur les a priori qui nous encombrent, et que la réalité est nouvelle. En fait, c'est le livre de chevet idéal, comme on prend une tisane, pour ne pas avoir mal à la tête et être certain de dormir.
Mais surtout, ce grand scientifique, on n'y croit pas un seul instant.
Oui, alors il y a ça aussi.
C'est quand même...
À l'appui de ce que je dis sur le côté soporifique, le séjour africain fut un bouleversement dans sa vie, bah, c'est typiquement le genre de phrase qui ne va pas vous réveiller la nuit.
Hein. C'est sûr que ce n'est pas Karen Blixen.
Non, Nelly. Je suis d'accord avec vous deux, surtout avec Arnaud, dans la jungle des clichés d'ailleurs, parce que Alors moi, l'autre cliché que j'ajouterais, parce que je suis d'accord avec eux, je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que je n'ai vraiment pas pu le lire, ça ne m'a pas du tout intéressé, c'est le cliché de la lutte des sexes, en fait, des genres. La jeune journaliste qui serait face à une espèce de star masculine vieillissante, donc éventuellement un prédateur. Au début, elle dit que c'est une rédactrice, la mise en garde contre les hommes comme ça, etc. Elle se demande s'il la viole, si le photographe va la défendre. Elle se rend compte que le photographe s'en fout, donc il ne la défendra pas. Et tout d'un coup, je me dis, mais il n'a rien fait. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et c'est un cliché en plus. C'est juste, on a l'impression que c'est une sorte de catalogue de clichés et de l'époque et de l'histoire. Enfin, et je ne vois pas où elle veut en venir. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas d'écriture. Et alors là, non, du coup, j'ai laissé tomber...
T'as laissé tomber la cécité des rivières.
La cécité des rivières.
Olivia.
Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. D'abord, j'adore ce titre. Je trouve que c'est très beau, la cécité des rivières. Je trouve que la manière, d'ailleurs, qu'elle a de décrire le fleuve est très belle. Et je suis pas d'accord avec vous pour les histoires de clichés, parce que au départ, c'est des personnages qui sont des archétypes, mais qu'on va découvrir d'une manière assez différente. Ce que tu dis sur la jeune fille, bah, me semble pas un cliché, me semble malheureusement une vérité assez répandue, qui est que oui, il y a beaucoup de jeunes filles naïves dans les rédactions, et oui, il y a beaucoup de personnages médiatiques qui se sont avérés d'horribles prédateurs,
ah
et
bon
qui ont été protégés par leur aura, et je trouve que tout ça... On a su que dans les Nobel, il y a eu des histoires qui montraient que ça s'était pas très bien passé. Donc je trouve qu'il y a quelque chose, qu'elle exprime en assez peu de phrases qui me semble quand même assez juste sur une réalité entre les hommes et les femmes. Et ce que j'ai adoré, c'est l'enfance de ce petit garçon. Je trouve qu'il y a une vraie trouvaille dans ce livre. C'est un petit garçon qui se retrouve en Afrique. Ses parents ont divorcé, la mère a gardé la sœur. Et lui, il est parti avec un père qui est un personnage vraiment terrible, qui bat son enfant comme plâtre.
Il est vraiment méchant, tu veux dire?
Oui, il est méchant, mais on comprend pourquoi, d'ailleurs. Le petit garçon, comme beaucoup d'enfants, protège son bourreau en expliquant qu'il a été attaqué par un animal sauvage. Et pour se sauver de cette enfance absolument horrible... Il a une idée géniale, c'est qu'il va réécrire les livres qu'il a lus quand il était en France. Et il va réécrire le souvenir qu'il a de l'île au trésor.
Ce sera le mot de la fin.
Et ben moi, j'ai trouvé ça magnifique.
La cécité des rivières.
Que Borges avait
Paul
déjà écrit
Constant,
ça il y a longtemps. Mais enfin bon.
Chez Gallimard.
Peu importe.
On savait,
François
Truffaut, fou de littérature. En voici une nouvelle preuve, correspondance avec des écrivains. Publié chez Gallimard et annoté par Bernard Bastide, qui rassemble les lettres échangées entre 1948, donc Truffaut a 16 ans, et 84, il a 52 ans, il va mourir, par le cinéaste des 400 coups avec les auteurs qu'il a portés à l'écran, donc il y a Henri-Pierre Rocher, Jules Egym, Maurice Pons, Les Mistons, David Goudis,
Ray Bradbury,
tiré sur le pianiste, Ray Bradbury pour Fahrenheit 451. Le plus drôle, d'ailleurs, c'est qu'il jugeait, il l'écrit d'ailleurs dans le livre tout à fait immoral, le pillage de la littérature par le cinéma. Lettre aussi échangée avec les trois écrivains que Truffaut admirait et qui l'ont vraiment longtemps accompagné. Jacques Audiberti, auquel il a confié une chronique dans les cahiers du cinéma. Jean Genet, on y revient, né comme lui de père inconnu, c'est très important. Et Jean Cocteau. Mais il écrit aussi à Elie Wiesel, Henri Miller, Milan Kundera, Graham Greene, François-Régis Bastide et de jeunes auteurs comme Jean-Marc Roberts ou François Veillargans qui lui demandent beaucoup d'argent. Et puis aussi à notre Jean-Louis Bory national, Bory qui lui reprochait de s'être fait ramasser par le système. Et il y a à la fin une réponse de Truffaut de au moins 10 pages, absolument magnifique, dans laquelle Truffaut dit « Bon ou mauvais, mes films sont ceux que j'ai voulu faire et seulement ceux-là ». Quelques minutes pour me dire ce que vous pensez, vous avez été trop long comme toujours, de ce volume que j'ai trouvé personnellement passionnant. Jean-Claude.
Ah oui, mais c'est vraiment un livre qu'il faut avoir. Si on aime Truffaut, il faut vraiment avoir ce livre.
Mais même si on n'aime pas Truffaut, il faut aimer aussi
les écrivains aussi.
Les écrivains, oui, absolument.
Bon, on savait en tout cas qu'il aimait écrire, on savait que la correspondance lui était vitale, on avait su par des biographies qu'il conservait les copies des lettres qu'il avait envoyées lui-même. On sait que tous ses films ont partie liée avec la littérature et l'écriture. Et c'est évidemment passionnant de s'enfoncer dans cette correspondance hétéroclite. Alors, il se présente très souvent, en tout cas au début, comme un autodidacte un peu emprunté, un peu timide, qui se déteste. Mais on s'aperçoit...
Pas tellement timide que quand il demande dès le début à Cocteau de venir. Il a 16 ans, il demande à Cocteau de venir inaugurer son ciné-club.
Je dis comme il se présente. Alors c'est vrai qu'il y a le coup de force avec Cocteau, mais il se présente comme ça. Mais la qualité du style d'entrée, c'est-à-dire à la fin de l'adolescence jusqu'à la fin de sa vie, dément évidemment cette modestie. C'est-à-dire qu'on est stupéfait de voir la qualité de l'écriture. Alors c'est touchant de voir, et Bastide insiste beaucoup, Bernard Bastide,
pas François Régis,
bien sûr, insiste beaucoup sur la façon très touchante dont il a essayé de se refaire une famille à travers tous ses créateurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'audace qu'il a pour aller les chercher. Alors ce qui est vrai aussi, c'est que quand on a le statut que finit par avoir Truffaut dans le monde intellectuel et le monde du cinéma, le bal des casse-pieds, le nombre de gens qui le sollicitent en douce pour essayer de voir...
Tout le monde veut être adapté par lui.
Oui,
hein.
C'est ça, voilà. C'est
une fois qu'il est connu. Hein,
c'est ça. Alors, il y en a qui le font de façon très agréable, enfin très, et d'autres qui sont vraiment casse-pieds. Ce qui est très beau dans la polémique avec Jean-Louis Borry, c'est la façon, en effet, dont il essaie de s'expliquer et que c'est un vrai plaidoyer argumenté, touchant, combatif, pour être lavé de ce reproche qui va lui être fait après tout le long du temps. Il a été récupéré par le système, mais ce qui est très beau, c'est que quelques années après, il envoie une très belle lettre à Jean-Louis Borry, qui a sombré dans la dépression, pour lui dire
moi aussi,
j'ai connu la dépression. Il lui tend la main, et c'est très très beau. Et je voudrais juste dire, il y a une surprise dans ce livre, c'est le jésuite Jean Mambrino, parmi tous ceux qui sont là, c'est parmi les plus belles lettres.
Très fidèle, et d'ailleurs, c'est la dernière lettre du volume.
Voilà, c'est la dernière lettre du volume.
Donc on est en janvier 84.
C'est son dernier confident.
Il va mourir de cette tumeur.
C'est son dernier confident.
Il adresse à Jean Mambrino cette ultime message. Je remonte la pente, je lis vos poèmes, ils m'aident. C'est la dernière phrase du volume.
Alors justement, Jean Mambrino dans ce volume a une importance considérable puisque c'est lui aussi qui va faire la messe de funérailles de Truffaut. Mais la qualité des lettres de Jean Mambrino et du dialogue avec Truffaut est absolument...
Nelly.
Ah oui, moi j'ai trouvé ça génial. Mais vraiment génial, j'ai adoré que ce jeune homme, c'est Truffaut très très jeune, j'ai découvert ce jeune homme qui est déjà d'une intensité d'un romanesque comme Antoine Doinel et qui tout de suite commence à écrire, à être pris très au sérieux par des écrivains très célèbres. Les lettres de Cocteau, les lettres de Genet...
Y compris les pires, parce qu'il y a quand même des lettres à Lucien Rebattet, faut le rappeler.
Alors, parce qu'ils aimaient tous les deux le cinéma américain.
Écrivain collaborateur.
Voilà, dans une... Et oui, moi aussi, alors ça m'a évidemment dérangé, voire choqué, qu'au fond, le jeune Truffaut s'en fiche un peu de ça... Et il n'y a que le cinéma comme religion qui compte. Et du coup, ils sont complices tous les deux sur le dos de tous les autres critiques parce qu'ils aiment tous les deux le cinéma américain. Ça, j'étais un peu secouée, c'est vrai. Mais moi, les lettres de Genet, Arnaud, je ne sais pas ce que tu en as pensé, les lettres de Genet sont admirables.
Génial.
La lettre où Genet se fâche avec lui.
Oui, mais oui, une drôlerie en même temps. Mais d'une drôlerie. Et d'ailleurs, la réponse de Truffaut est magnifique. Genet le traite de merveux.
Mais il faut expliquer que Genet avait demandé un service, qu'ils reçoivent un jeune homme.
Ouais. C'est un film.
Et Truffaut était un tout petit peu pressé, il n'a pas. Hein. Ouais. Et la réponse de Genet à Truffaut...
Il n'était pas pressé, sa fille était malade, il fallait qu'il aille à la pharmacie. Il explique tout à Genet.
La violence de la réponse de Genet.
Mais génial. Mais vraiment.
Ça, c'est génial. Alors, je ne savais pas, je ne connaissais pas son amitié avec Louise de Villemorin, je ne savais pas qu'elle lui avait inspiré le personnage Fabienne Tabar dans Baiser volé, voilà. Cocteau, qui lui demande toujours des services, c'est marrant d'ailleurs, à un moment donné.
Oh, mais Truffaut lui en demande aussi, parce qu'il demande à Cocteau, quand Juliette Jim est menacée d'être interdit au moins de 18 ans, il demande à Cocteau de faire une lettre pour la commission qui décide du visa d'exploitation. Donc Truffaut sait bien utiliser Cocteau, mais Cocteau sait bien utiliser Truffaut.
Ce que j'aime, c'est qu'ils se rendent tout de suite compte à qui ils ont affaire, quoi. Ils se rendent tout de suite compte que c'est un jeune homme pas comme les autres, qui est habité, qui est hanté par l'art. Oui.
Et qui savait écrire. J'ai appris qu'il avait signé avec Robert Sabatier à l'époque chez Albin Michel un contrat pour écrire une lettre ouverte à Jeanne Moreau.
Ouais.
Et qu'il n'a jamais honoré ce contrat. Non. Mais moi, j'aurais rêvé de lire lettre ouverte de Truffaut à Jeanne Moreau.
Formidable, effectivement, parce que je veux dire, c'est le plus littéraire aussi des cinéastes de la nouvelle vague. Ils sont tous littéraires, hein. Romère évidemment, Léo aussi, Godard différemment, mais tout de même plus porté peut-être vers la philosophie. Mais lui, c'est vraiment le roman, et plus c'est le roman du 19e. Il adore lire. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il soit allé par exemple chercher Goudis. Personne ne parlait de Goudis à cette époque. Qu'il soit allé chercher Ray Bradbury. On voit qu'il a eu le projet de faire Chronique martienne, et puis finalement, il a choisi Fahrenheit 451. Et on voyait tout. Et après, Bradbury, il lui envoie à peu près tous les scénarios qu'il fait. Et à chaque fois, Truffaut lui répond très poliment, mais là, il faudrait 100 millions de dollars. Allez plutôt demander à Hollywood. Moi, je suis en France. Parce que c'est beau aussi comment il parle de production, de son travail, et jamais de l'être. Pendant les tournages, évidemment, hein. Pendant les tournages, on sait que c'est le tournage. C'est après, on les voit, il dit après le tournage, et c'est la plupart des lettres sont sur les trois premiers films, et c'est vraiment en fait parce qu'il apprend aussi à faire du cinéma dans la part la plus contrainte, celle de la production en fait.
Olivia.
Oh ben oui, formidable. Il y a peu de femmes. C'est des lettres qui sont très souvent professionnelles, sauf la correspondance avec Louise de Villemorin. Et ça, c'est extraordinaire, tu disais. Ils ont 30 ans d'écart.
Qui est de l'amitié amoureuse, hein.
Elle est chatounesque avec lui. Elle essaye.
Comment tu dis chatounesque?
Chatounesque.
Ah, c'est pas mal.
Elle lui dit, je vois que vous allez mal. Voulez-vous que je vous envoie de la langue de bœuf, des livres, ou alors des décalcomanies? Et alors elle dit, je ne sais pas comment on écrit décalcomanie, mais je ne vais pas ouvrir une parenthèse parce que je déteste les parenthèses qui sont aussi communs que les clins d'œil. Non, mais cette lettre-là est géniale. Alors, on voit qu'elle est chatoune. Parce que après, il lui répond, et il y a un drôle de PS. On est en 1952, et il lui fait un petit compliment. Il lui dit, 83 ans, me disiez-vous avoir? Permettez-moi de vous dire que vous en portez le tiers, et en plein jour. C'est magnifique. Sauf que ce qui est génial, c'est qu'après, j'ai quand même regardé quel âge elle avait, la Louise de Villemorin. Elle avait 50 ans. Elle lui fait croire qu'elle en a donc 83.
Ça, c'est très drôle.
Cette petite anecdote, moi, m'a absolument ravie. Tout est bien. Il y a aussi des lettres très belles où il défend Jean-Pierre Léo, qui a joué dans l'éducation sentimentale et il était tout le temps ivre-mort.
Ah oui,
ça a
été
un
magnifique
cauchemar.
C'est l'épisode avec Bastide.
Exactement.
Oui, c'est avec Bastide. C'était à la télévision. C'est pour la télévision.
C'est assez... à fleur et moucheté.
Ouais.
Bon, allez, ses correspondances avec des écrivains, lisez ça, c'est chez Gallimard, c'est un gros volume. Et ce sont donc les lettres de François Truffaut. J'avais inscrit, on a comme juste 5 minutes pour l'évoquer, mais j'avais inscrit un livre que je trouve passionnant de Jean-Philippe Toussaint, l'auteur de La vérité sur Marie. C'est vous l'écrivain, dans une nouvelle collection qui s'appelle Secret d'écriture. Et il raconte... comme Jean-Philippe Toussaint, comment il écrit, sur quelle machine il écrit, dans quel lieu, ça va de la Corse à la Belgique, en passant même par l'Algérie, ses manies, ses rituels. Et en même temps, d'ailleurs, il sort un tout petit livre que je dois
super
citer.
Beau, ouais.
L'instant précis où Monet entre dans l'atelier, c'est 30 pages. Là, c'est chez Minuit. Et là, il montre Monet en train de peindre à Giverny. Et c'est absolument lumineux. Donc, deux livres de Jean-Philippe Toussaint, c'est double bonheur. En un mot, Arnaud.
En fait, c'est une masterclass, hein, ce genre. C'est
masterclass, ce que, absolument.
Voilà, c'est une masterclass ou un tuto, comment j'ai écrit certains de mes livres, ou même là, en l'occurrence, tous ces livres. On voit d'ailleurs que, finalement, ce qui est intéressant, c'est que ce dont il parle principalement, c'est pas la manière dont il a écrit les livres, c'est comment il les a écrits avec son éditeur, Jérôme Lindon. C'est la relation
d'ailleurs,
avec...
D'ailleurs, le titre, Jérôme. C'est, et de Jérôme Lindon, c'est vous c'est, l'écrivain.
Voilà, c'est vous voilà, l'écrivain.
Merci à Jean-Philippe Toussaint. Voilà.
Et cette petite anecdote tellement
mot,
jolie,
Olivia.
Il est dans le métro avec Jérôme Lindon qui lui dit que Beckett a été son père symbolique, que Rob Grillet a été son frère symbolique et que Jean-Philippe Toussaint est son fils symbolique. Et là, il est tellement gêné qu'il lui demande, au lieu de répondre, il élude et il lui dit « Est-ce que la direction, c'est Porte d'Orléans ou Porte de Clignancourt ?» Et rien que pour cette anecdote, mais on a une passion pour Jean-Philippe Toussaint. C'est formidable, ce livre.
Nelly.
Oui, moi j'ai adoré. J'aimerais que les écrivains qu'on aime, voilà, racontent un peu, nous fassent rentrer dans leur laboratoire d'écriture. Et en effet, Jérôme Lindon, qui était un grand éditeur, mais qui est aussi un merveilleux personnage dans le livre des autres, que ce soit chez Echenoz ou chez Toussaint. J'adore aussi quand il, à un moment donné, il lui donne un bureau pour remplacer Rob Grillet, d'ailleurs, ce que je savais pas, et il voit Lindon entrer avec son arrosoir pour arroser les plantes, ou une sorte de Jack Tati. Non, j'adore qu'il parle de ses bureaux. J'adore quand il dit, en fait, pour être dans le monde, un écrivain a besoin de s'en retrancher, de plonger très profondément en lui-même, et c'est ainsi qu'il atteindra le monde.
Un peu comme Monet dans son atelier. Jean-Claude ?
Non, très rapidement, je suis complètement d'accord avec vous. C'est les secrets d'un artisan à son établi, c'est un discours de la méthode, c'est... un manuel d'écriture autant qu'un précis de littérature. Alors j'aime beaucoup son côté transgressif, c'est-à-dire qu'il revendique les répétitions. Il dit, moi ça, les répétitions, je m'en fous, je les corrige pas. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on fasse pas des répétitions, c'est bien les répétitions. Et il a renoncé au point-virgule. Alors là, pour moi, ça a été le truc le plus stupéfiant du livre.
Mais c'est douloureux, hein,
mais oui.
Renoncer au
point-virgule. Mais oui, enfin comment peut-on renoncer au point-virgule, qui est une espèce en voie de disparition.
Non,
sauvons le point-virgule, militons pour le retour du point-virgule.
Bon, voilà. Joël Dicker ne savait même pas qu'il existait, mais enfin, il n'a pas lancé.
Mais oui.
Le plus drôle, c'est que quand même le livre de Toussaint paraît dans une nouvelle collection où ses voisins, c'est Michel Bussy, Franck Tilliez... oui, c'est ça.
Et aussi, non, il y a aussi dans la même collection, Suzy Morgenstern.
Et la merveilleuse Suzy Morgenstern.
Et son livre est aussi merveilleux que celui de Toussaint.
Donc, alors, la masterclass de Jean-Philippe Toussaint, ça s'appelle « C'est vous l'écrivain ». C'est publié par le Robert, comme le dictionnaire, hein, c'est la même maison d'édition.
Très bel éloge des dictionnaires, non ?
Absolument, il y en a beaucoup. Et vraiment, c'est pas cher, c'est une pure merveille. L'instant précis où Monet entre dans l'atelier de Jean-Philippe Toussaint, c'est chez Minuit, c'est quasiment une plaquette. Et c'est justement une phrase, voilà. Tous les matins, lorsqu'il entre dans l'atelier, Monet prend congé du monde, il passe le seuil, et devant lui, de l'autre côté de la porte, encore invisible, immatériel, c'est l'art qui l'attend. Ça, c'est l'art aussi de Toussaint. Allez, le temps est venu des conseils. Et on va commencer avec Olivia.
Un livre sud-africain, La Promesse, je ne sais pas comment on prononce le nom du monsieur, si quelqu'un veut bien m'écrire, Damon Galgut, c'est aux éditions de L'Olivier, et l'auteur a reçu le Booker Prize en 2021. L'histoire semble banale, mais elle ne l'est pas du tout. C'est une fratrie entre 1986 et 2018 en Afrique du Sud qui se déchire. C'est vraiment l'explosion d'une famille sur fond d'un pays qui se transforme, mais c'est surtout la langue la plus inventive et la plus belle que j'ai vraiment découverte depuis très longtemps. On est vraiment dans le cerveau des gens, il y a un truc à la Faulkner, c'est très très beau, ça s'appelle La Promesse.
Édition de L'Olivier.
Exactement.
Le conseil d'Arnaud.
Alors c'est le nouveau roman d'un écrivain que j'adore, Abdellah Taïa, c'est son 10e roman qui s'appelle Vivre à ta lumière. Abdellah Taïa, c'est un écrivain franco-marocain.
On en a parlé plusieurs fois au masque.
Oui, bien sûr, plusieurs fois, qui écrit depuis 20 ans maintenant, ça doit être son 10e roman. Il a publié son premier livre en 2001. Il avait d'ailleurs fait scandale au Maroc puisqu'il avait révélé, il avait fait son coming out, comme on dit, il avait révélé son homosexualité, parce que c'est un écrivain où le thème de l'homosexualité au Maghreb est extrêmement important et présent. Et là, c'est un livre sur sa mère qui est décédé à l'âge de 80 ans en 2010, et il a eu une idée de génie, c'est qu'il ne raconte pas la vie de sa mère, il choisit trois moments dans la vie de sa mère, lorsqu'elle a 20 ans et qu'elle se marie pour la première fois, la deuxième fois elle a 6 enfants, elle vit à Rabat, et une Française veut que sa grande fille devienne sa domestique et elle s'y oppose totalement, et puis le dernier moment où elle est agressée par un jeune homosexuel justement qui sort de prison, et là on est encore une fois dans l'univers de Jean Genet, et je trouve, mais c'est cet écrivain, Abdellah Taïa, je l'adore, je trouve qu'il a une force en lui, hein. il y a une pulsion durassienne chez lui qui est très belle, et vraiment, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas plus connu que ça.
C'est chez Au Seuil.
C'est Au Seuil.
Mon conseil, Tous tes amis sont là, d'Alain Dulot, c'est à la Table Ronde. Regarde, tous tes amis sont là, c'est le cri d'Eugénie Krantz devant la fosse où le 10 janvier 1896, on vient de descendre le cercueil de Paul Verlaine, dont elle fut la dernière compagne. Et effectivement, ils sont tous là, il y a François Copé, il y a Barrès, Paul Valéry, Zola, Mallarmé, et puis des étudiants qui avaient déployé la banderole au prince des poètes. Le convoi était parti du quartier Mouffetard, et il a rejoint le cimetière des Batignolles, quand même 7 kilomètres. Cette cérémonie des adieux, donc, c'est raconté par Alain Dulot, c'est très beau, et c'est « Tous tes amis sont là, à la Table Ronde ». Le conseil de Nelly.
Moi, c'est Fernanda Melchor. Et le titre du roman, c'est Paradise. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Je ne sais pas si c'est Paradise ou Paradise. C'est une écrivaine mexicaine qui vit à Paris, qui a été aussi très remarquée par Virginie Despentes. Je l'ai lu parce que j'ai souvent les mêmes goûts que Virginie Despentes. Et là, c'est génial. Elle raconte une espèce de... comment dire, de résidence pour riches, d'allotement, de villa pour riches, où un gamin pauvre est jardinier. C'est son monologue. C'est d'une inventivité, d'une cruauté, d'une crudité. Ça va vite. Il y a une invention, voilà, linguistique que j'adore.
Et c'est chez
Grasset.
Grasset, le conseil, Jean-Claude.
Le premier titre d'une nouvelle collection chez Lattès Bestial, qui est une collection lancée par Clara Dupont-Monod, et c'est le livre de Marc Duguin qui s'appelle « Compter les moutons », mais compter, pas compter les moutons au sens « je les compte et je m'endors », au sens de conte de fées, conte d'enfants. Et c'est un conte philosophique sur l'humanité, et c'est une autobiographie de Marc Duguin en forme de bilan, mais l'originalité de ce livre, c'est que Marc Duguin est raconté par les deux brebis, la deux brebis vivent en Bretagne, qui sont un petit peu trouillardes et qui observent les humains. Et il les appelle les sœurs Chocottes. Et Marc Duguin se cache derrière les sœurs Chocottes pour décrire l'état actuel de l'humanité et sa place dans le monde. C'est un regard désenchanté, pessimiste sur notre espèce, comme les brebis l'ont sur nous, prédateurs, on n'est que des prédateurs, des destructeurs, des consommateurs compulsifs qui ont remplacé leur intelligence par les algorithmes. Et Les sœurs Chocotte disent que les hommes ne se jaugent pas selon l'état de leur connaissance aujourd'hui, mais de leur possession, et qu'ils ont remplacé l'intelligence par les algorithmes. Et alors, les sœurs Chocotte ont...
Oui, mais les sœurs Chocotte, on ne va pas non plus les raconter plus longtemps, parce que l'émission se termine.
Alors, c'est un livre original, amusant.
Et avec deux brebis.
Sur et par un homme mystérieux, dont le manque revendiqué de sociabilité est compensé par un goût prononcé de l'amitié.
Tu rappelles le titre ?
Comptez les moutons, Marc Duguin, chez La Thèse, collection Bestiale.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Olivia de Lamberterie, Nelly Caprier-Lyon, Arnaud Vivian, Jean-Claude Raspien-Jas, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Sélam, et aujourd'hui à la technique au théâtre de l'Alliance française. Il y avait, et je les remercie, Marie Le Peintre, Tar Bouklifa, Tiphaine Hermelin, à la régie Jean-Yves Masson, à la réalisation Xavier Pestugia. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, ce sera le jeudi 28 avril à partir de 19h au théâtre de l'Alliance française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de films. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.